Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Pierre-François, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
Bonjour Estelle.
Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Vous faites partie de ces gens qui ont été placés sur mon parcours. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous, beaucoup de sympathie.
C'est gentil, ça commence bien.
Non mais ouais, vraiment,
podcast.
Vraiment.
Merci beaucoup.
Et je vous apprécie beaucoup. Ça fait longtemps que je pensais à vous pour une intervention dans le podcast et on a enfin réussi à faire ça. Je vais demander sans plus tarder une question assez basique, à savoir est-ce que je peux vous demander de vous présenter autant perso que professionnel en nous disant ce que vous voulez nous dire. Voilà.
Alors, je m'appelle Pierre-François Lelouette et je suis donc le président de Nelly Rodi. Je suis aussi président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Nelly Rodi est quelque chose d'un peu bizarre qu'on aime beaucoup, une agence de conseil dans le domaine des industries créatives. On travaille beaucoup sur les stratégies de marque, sur les stratégies créatives des maisons que nous accompagnons. Nous sommes basés à Paris, à New York, à Tokyo et travaillons dans une dizaine de pays.
Ouais.
Et ce qui est très chouette chez Nelly Rodi, en dehors de nos gentils clients, c'est aussi les gens qui font Nelly Rodi.
Bien sûr.
Et on a ici un panorama de caractère assez passionnant. Président de la fédération depuis 6 ans, fédération qui représente toutes les petites marques indépendantes de mode. Alors petite, ça peut aller de quelques millions d'euros jusqu'à 250 millions, donc ouais. C'est pas si petit que ça.
Ouais.
Et c'est une mission bénévole que j'ai depuis 6 ans maintenant et qui me rend extrêmement heureux. Et puis je suis aussi un mari, un papa d'un petit garçon de 10 ans que j'amène tous les matins à l'école
et
qui sont mes rayons de soleil l'un et l'autre.
Pierre-François, est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours personnel, en fait, ce qui a fait que vous êtes arrivé à la tête de Nelly Rodi, que vous la dirigez maintenant depuis, presque...
Presque 20 ans.
20 ans, c'est ça, ouais.
Dieu.
C'est ça. Un petit rappel sur votre parcours.
Ouais. Ce qui peut peut-être... caractériser mon parcours, c'est que j'ai toujours aimé un peu les chemins de traverse.
Mmh.
Donc je suis rentré chez Nelly Rodi en 2001.
Ouais.
C'est drôle ce que je vous dis parce que 2001, je suis à la fois le fils de Nelly Rodi, la fondatrice, donc ça fait pas très chemin de traverse du tout, au contraire. Simplement, moi, j'avais une culture business et qu'en 2001, je suis arrivé, j'étais le seul à avoir une culture business chez Nelly Rodi. Tout le monde avait une culture créative.
Ouais.
Donc, quand je vous parle de caractère, c'est vrai que chez nous, aujourd'hui, 20 ans après, il y en a beaucoup, mais à l'époque, la fin des années 90, le début des années 2000,
ouais, je vois très bien.
Dans l'univers de la mode, je peux vous assurer que des caractères, il y avait de quoi faire. Je suis de formation cagne, hypocagne, mais c'est cagne et ces hypocagnes un peu bizarres, les mêmes qu'a fait le président Macron et Édouard Philippe d'ailleurs, c'est les fameuses cagnes BL où en plus des matières littéraires, on fait du mathématique, de la sociologie,
ouais.
Etc. Et donc c'est en gros la classe prépa où on fait le plus de trucs différents.
Ouais.
Et moi comme je savais pas quoi faire après le bac, je me suis plongé là-dedans et ça, j'en parle toujours beaucoup parce que ces 3 années que j'ai fait parce que j'ai cubé ont été les années les plus riches de ma vie.
Mmh.
C'est là où j'ai appris le plus de choses, c'est là où j'ai rencontré les gens les plus intéressants. Et où je garde encore d'ailleurs des amitiés extrêmement fortes.
Mmh.
Et puis, j'ai rapidement compris que l'école normale, donc devenir prof ou chercheur, c'était pas du tout ma voie.
Mmh.
Donc, j'ai passé les écoles de commerce. Je suis arrivé à l'ESCP, qui était l'école que je voulais, ce qui m'a permis d'avoir une vie parisienne extrêmement dense pendant 3 ans. et j'ai fait un petit détour à Babson College à Boston, où j'ai fait un semestre de MBA d'entrepreneurship,
mm-hmm.
Small Business Management.
Mm-hmm.
Et c'était les prémices des fonds d'investissement, c'était les débuts de la gloire d'Apax, c'était une période extrêmement particulière parce que c'était la fin des années 90 donc, et commençait, il y avait déjà une première bulle Internet qui était dans les parages, et à l'époque on disait qu'on vendrait jamais de chaussures sur Internet, que gérer les tailles c'était trop compliqué, etc.
Ça paraît fou, hein.
Et ça paraît fou, c'était voilà, autre temps, autre mœurs, et voilà. Et après l'IFM, j'ai pas voulu. Après le SCP, donc je voulais pas faire mon service militaire. Donc j'ai prolongé mes études et je suis allé à l'Institut français de la mode, où j'ai fait un troisième cycle. Je suis aujourd'hui administrateur et membre du bureau de l'Institut français de la mode. Donc c'est drôle de voir 25 ans après les parcours de vie. Et j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, où j'ai fait du marketing. D'abord au niveau français, puis au niveau international. Ça a été là aussi des années extrêmement riches, des années où j'ai beaucoup travaillé, mais des années où j'ai ri énormément. où là aussi, je me suis fait beaucoup d'amis et dont je garde de très bons souvenirs. Et puis, 2001, donc ma mère, pour rien vous cacher, était malade à l'époque. Elle était fatiguée. La société connaissait une crise de croissance. C'était juste avant le 11 septembre. Et donc, j'ai mis 6 mois à lui dire oui, parce que j'étais plutôt pas mal chez L'Oréal. Mais il y a un moment chez L'Oréal, je me souviens très bien d'une réunion avec mon boss qui venait de changer. Et j'ai dit à mon boss, non, je ne ferai pas ce que tu me demandes. Et ce jour-là, j'ai compris que mon avenir était ailleurs, qu'il était peut-être dans cette petite société familiale qui s'appelait Nelly Rodi. Et donc, j'ai dit un grand oui à ma très chère mère. Et fin août 2001, je suis arrivé chez Nelly Rodi.
Vous n'y pensiez pas du tout avant ?
Si, j'y ai toujours un peu pensé. C'était toujours dans un coin de ma tête. De la même manière que dans un coin de ma tête, j'avais l'envie d'être commissaire-priseur. Mais je savais à l'époque qu'il fallait acheter des charges, vous savez, de commissaire-priseur pour pouvoir le devenir. Vraiment, je savais que mes parents n'avaient pas du tout la fortune pour pouvoir m'offrir une charge parisienne un peu sympathique. Et j'ai rapidement compris que je préférais acheter des œuvres d'art que les vendre et que mon avenir n'était peut-être pas dans la mise aux enchères d'un stock de machines à laver d'un magasin qui aurait fait faillite. En province. voilà, cette idée du commissariat s'est un peu éloignée petit à petit. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, chez Nelly Rodi, les bureaux sont à deux doigts de Drouot.
Ouais.
Donc, je passe un peu de temps en salle des ventes et ça, c'est plutôt sympa.
Alors justement, de 2001 à maintenant,
ouais.
Nelly Rodi a vécu des changements, on va dire.
Ouais.
Quelle est la grande... c'est un peu difficile de résumer presque 20 ans en quelques lignes, mais voilà, vous êtes arrivé dans cette agence à une époque où l'écosystème de vos clients, l'écosystème de votre métier était différent. Quelles sont les grandes évolutions que vous avez vécues en tant que patron de Nelly Rodi, d'abord, mais également en tant qu'observateur de tout cet écosystème auquel vous êtes aujourd'hui dans lequel vous évoluez, en sachant qu'au début, vous étiez quand même avec un axe très mode, très design, enfin voilà, et qu'aujourd'hui, vous avez énormément élargi le scope de vos compétences. Voilà, moi je suis très intéressée de savoir qu'est-ce qu'était Nelly Rodi à cette époque et qu'est-ce que vous considérez que Nelly Rodi est aujourd'hui.
Alors, à l'époque, pour résumer, c'était un bureau de style, c'est-à-dire une armada de stylistes, de designers qui étaient là avec des égos extrêmement développés, avec beaucoup de talent aussi, avec beaucoup d'affirmations, et ces stylistes passaient d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre, pour aller porter la bonne parole, un peu comme des gourous.
C'est ça. Et les marques se reposaient vraiment sur eux.
Ouais. Et les marques, qui souvent étaient assez peu équipées en interne... Le mot marketing à l'époque dans la mode n'existait absolument pas. C'était un gros mot. Donc il n'y avait que de la création et du commercial. Et il n'y avait pas du tout de mise en perspective de quoi que ce soit, pas du tout de réflexion sur les clients, sur la manière de bien vendre. Voilà. Donc ça, c'était. Donc il y avait ces créas, il y avait ces cahiers de tendance qui étaient vraiment perçus comme des diktats. Quand Nelly Rodi disait que le rose allait arriver cette année, ben des centaines de sociétés se mettaient à faire du rose. C'est et ça. Ça créait une tendance extrêmement puissante. Et donc il y avait à Paris comme ça cette espèce d'épicentre où le monde entier venait. Mais quand je suis arrivé chez Nelly Rodi, je crois que par exemple on dirigeait 11 collections uniquement à Taïwan de vêtements.
C'est incroyable.
Donc il y avait 11 clients différents qui deux fois par saison prenaient leur avion, venaient avec leur famille, louaient des appartements et assistaient pendant une demi-journée à la remise d'un dossier, faisaient pendant une demi-journée du shopping, des expos, etc. Ça se terminait dans un dîner dans un très bon restaurant. Et ça se répétait. Mais ça, c'était uniquement à l'échelle de Taïwan. Vous pouvez imaginer ce qu'était le reste du
incroyable.
Monde.
Incroyable.
Voilà. Et c'était... il se passait toujours un truc, quoi. Parce que c'était magique. Moi, encore une fois, je suis arrivé en 2001. J'étais le seul à porter un costume et une cravate dans cette histoire. Et j'avais 28 ans. Et
c'est ça, vous étiez quand même très jeune.
J'étais très jeune. Ouais. J'étais le fils de la patronne. Je ne peux pas vous dire que j'ai été très bien accueilli.
Ah bon ?
Non. Mais j'en avais rien à foutre.
Parce c'est que, ce qu'il faut faire en général.
Je sais pas. Ça veut pas dire que j'ai pas été blessé. Ça veut pas
bien
dire
sûr.
Qu'il y a des moments et tout. Mais en tous
vous
les cas, j'avais
outre.
Une directrice. Ouais. J'avais une idée en tête qui était de faire de Nelly Rodi une maison extrêmement inspirante, extrêmement innovante, pas uniquement centrée sur la mode, mais beaucoup plus large sur les industries créatives. D'inspirer aujourd'hui, comme nous le faisons, l'hôtellerie, la food, le jeu vidéo, et pas uniquement le textile de l'amont de la filière mode. Et je suis très heureux aujourd'hui, 20 ans après, d'avoir réussi, je crois, à atteindre ce cap, tout en sachant bien sûr que tout est fragile, que rien n'est jamais abouti, et que, en particulier dans ce domaine-là des industries créatives, tout a tellement changé 20 ans après. Les acteurs ont changé, les périmètres ont changé, les habitudes ont changé, les métiers ont changé, nos interlocuteurs ont beaucoup évolué. Si Nelly Rodi a continué comme ça son bonhomme de chemin, toujours dans le domaine des industries créatives, le paysage de ces industries n'a plus rien à voir avec ce
bien
que
sûr.
Nous connaissions il y a 20 ans.
Alors, bureau de tendance, agence de conseil en innovation, je pense qu'il y a plein de manières de décrire Nelly Rodi, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu du fonctionnement, en fait, parce que je crois que beaucoup de gens... connaissent Nelly Rodi de nom, mais par contre, on ne sait pas trop comment ça fonctionne.
Oui, il y a toujours un petit mystère.
Ouais.
Hein.
Bah alors après, si vous gardez le mystère, il n'y a pas de sujet. Ah, hein,
bon,
mais
on va en garder un petit peu, mais on peut aussi en discuter quand même.
Non, mais c'est juste pour essayer d'éclairer les gens sur l'ADN que vous avez au sein de la maison, peut-être éventuellement des pôles différents. Comment
alors,
ça marche ?
Aujourd'hui, chez Nelly Rodi, tout commence par le client, le consommateur final. Donc, on a tout un pôle qui est dédié aux insights, aux consumer trends, et dont l'objectif, dont le métier est vraiment de faire des études quali, quanti, d'écouter, de regarder tout ce qui se passe sur le net, nourri par des correspondants internationaux dans un certain nombre de grands pays, pour nous expliquer quelles sont les valeurs de consommation, quelles sont l'évolution des attitudes de consommation qui vont driver le changement et l'innovation dans nos secteurs. Une fois qu'on a travaillé sur une bonne compréhension de notre époque, donc, et de ce consommateur, de ce client, on va travailler beaucoup sur les marques. Donc, beaucoup de maisons viennent nous voir pour essayer de réorienter leur stratégie, conquérir des nouveaux marchés, remettre à plat peut-être une offre qui n'est pas assez performante et assez désirable. Et tout notre axe va être de rendre ces marques plus désirables, de rendre leur offre plus désirable. Donc, nous ne sommes pas du tout une agence de communication. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'image, c'est la réalité de ce qui se vend à ces fameux clients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la focale, c'est la marque et c'est son offre chez Nelly Rodi. Ça n'est pas la campagne de com, ça n'est pas forcément le design, ça n'est pas le marketing. C'est vraiment un sujet de marque, de vision de marque et d'offres. Donc, nous allons déployer avec les experts business qui sont segmentés par industrie, parce qu'ils ont des connaissances des dynamiques industrielles des secteurs, des visions, des positionnements extrêmement singuliers pour les marques que nous co-construisons évidemment avec elles sur la base de notre compréhension du monde, des insights consommateurs que nous avons pu identifier et créer donc des plateformes de marques, des plateformes d'offres, des plateformes ensuite de stratégie créative, c'est-à-dire définir les invariants, les codes de la marque, quels sont le socle des signes sur lesquels la marque va pouvoir s'appuyer pour se déployer ensuite. Et puis une fois qu'on a défini tout ça, on va travailler sur la stratégie d'innovation, donc le renouvellement de cette offre, à quel rythme, quel type de produit on va sortir. Et donc les designers arrivent à cette étape-là, ou les stylistes, pour pouvoir nourrir le rythme du développement produit. Voilà. On le fait toujours donc avec cette idée d'être plus désirable, et la désirabilité aujourd'hui, un de ces vecteurs en tous les cas, parce que là aussi ça a beaucoup changé, parce que notre contexte culturel a beaucoup changé, c'est aussi la RSE. Donc la RSE est un des grands drivers.
Je voulais vous en parler.
Voilà, qui change beaucoup notre métier aujourd'hui.
Alors justement, vous avez été capable de vous adapter à ce besoin. Je pense que c'est un besoin assez commun finalement chez vos clients, quelle que soit leur typologie, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. J'ai toujours une interrogation en ce qui concerne la RSE, c'est que c'est un petit peu direct comme question, mais quel est le fond du sujet? Il est à la fois marketing finalement et à la fois réel. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de greenwashing, enfin je ne vais pas vous l'apprendre, mais bon, on doit se positionner sur une certaine manière de faire, de vendre, etc. Quels sont les besoins que vous ressentez aujourd'hui en ce qui concerne la RSE chez vos clients ? C'est-à-dire, sans révéler des secrets de guerre, mais il y a la RSE il y a 5 ans, où on a commencé à parler de ça il y a peut-être un peu plus que 5, 6 ans, 7 ans, ça a commencé à devenir très patent, en fait, très, très vivant.
Moi, j'ai un marqueur en tête, c'est-à-dire qu'en tant que président de fédération, j'ai demandé une subvention il y a 5 ans maintenant pour faire ce qui était la première étude sur la RSE et la mode en France. Et donc, je demandais des subventions dans un organisme, on était en conseil d'administration, on défendait nos projets respectifs, etc. Un organisme de financement de la filière. Et je me souviens très bien des sourires en pointe de la plupart des membres qui étaient là, qui m'ont accordé la subvention en disant « Bon, il va se calmer après, c'est quoi cette étude, on y croit à peine, de toute façon, le vent souffle et la RSE partira avec. » Donc je suis d'accord avec vous, mais ça c'est des comportements de gens d'une certaine génération. Qui déjà à l'époque n'avaient pas compris ce qui se passait vraiment dans le monde et qui aujourd'hui le comprennent encore moins quand ils sont encore vivants.
Bien sûr.
Donc la RSE aujourd'hui, elle est profondément ancrée dans les nouvelles générations. On connaît tous leurs comportements contradictoires parfois, mais ça n'empêche qu'elle est profondément ancrée. Ça n'empêche que la prise de conscience, elle devient généralisée dans le monde occidental. Elle ne prend pas des visages homogènes, c'est-à-dire qu'en fonction des clients, en fonction des origines, en fonction des opinions politiques, on a des axes différents, mais derrière le mot développement durable, des réalités qui peuvent prendre des angles différents, des visages différents, mais à la limite, c'est pas trop grave tant qu'on fait des efforts et tant qu'on a pris le chemin. Et donc, chez Nelly Rosy, c'est une conviction propre, forte. Ça fait plusieurs années que les équipes sont formées de manière très régulière à ces questions et qu'on amplifie encore beaucoup toutes les formations à ce sujet autour de grandes priorités que sont... pour nos clients, évidemment, travailler les approvisionnements pour faire en sorte qu'ils soient plus responsables. Travailler, deuxième priorité, le design responsable, l'éco-conception est évidemment quelque chose de très important. Puis la communication responsable, ça vient après, parce qu'effectivement, quand il y a du greenwashing, c'est un peu énervant.
C'est aussi également quand même un axe à la fédération aujourd'hui. Vous qui êtes plus qu'impliqué dans cette fédération, comment... quelles évolutions vous avez senties au sein de cette fédération sur ce sujet quel est votre rôle, enfin peut-être éventuellement aujourd'hui. Ouais.
Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement enthousiasmant sur ce sujet, c'est alors la fédération, encore une fois, que je représente, représente essentiellement des PME, des marques qui sont des PME et des usines qui sont des PME. Et en fait, c'est les plus petits qui nous ont alertés sur le sujet d'abord. Ça n'a pas été les plus gros.
Ça n'a pas été les gros
groupes, ça n'a pas été les grosses boîtes, ça n'a pas été ceux qui ont eu des moyens pour pouvoir le faire plutôt que les autres. C'est pas vrai. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a eu des personnalités emblématiques qui avaient cette conviction au cœur, qui l'ont traduite et l'ont mis en application dans leur marque en travaillant sur des approvisionnements très responsables, sur des matières bio, sur parfois un engagement social extrêmement fort, sur une gouvernance aussi qui peut être bien différente de celle que l'on connaît du top-down dans beaucoup d'autres organisations, bref. Et donc, ça a été souvent des petits, des gens qui, des petites sociétés qui se créaient, qui avaient eu 6 mois, 1 an d'existence, etc., et qui, à 4-5 ans, ont embarqué un mouvement, ont embarqué des consommateurs, souvent sur le net, en créant des communautés extrêmement puissantes sur Instagram, très centrées sur une co-construction de leur collection avec leur communauté, souvent. Et ça a fait un effet boule de neige, quoi. Et donc, très vite, dans notre fédération, en tous les cas, au sein de mon conseil d'administration, où il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gros, il y a des petits, enfin, il y a un peu de tout, hein, à l'image de la société française, eh ben, il y a eu une conviction commune qui s'est faite qu'il fallait vraiment être le porte-voix d'une mode plus responsable, qu'il y avait n'importe quoi qui était fait dans beaucoup de boîtes et qu'il était temps que ça cesse. Donc, on ne représente pas la fast fashion, on ne représente pas les maisons de luxe, mais on sait que dans notre périmètre à nous, moi j'ai toujours eu une opinion unanime sur ces sujets de RSE au sein de mon conseil d'administration pour dire on y va, on avance. Il faut déployer des guides, il faut déployer des subventions, donc il faut déployer des groupes de travail, faire en sorte qu'il y ait des marques qui travaillent ensemble pour déployer des plans d'action responsables très vite et des stratégies écrites, identifiées sur des enjeux, sur des KPI, etc. Et ça, c'est un des, pour moi, après 6 ans à la tête de la fédération, c'est sans doute une des choses qui me rendent le plus fier aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a cette génération des petits, des jeunes, elle a embarqué avec elle les vieux, les plus gros, et elle leur a servi d'exemple. Si bien qu'aujourd'hui, dans tous les nouveaux membres qui rejoignent la fédération, il n'y en a pas un qui n'a pas, depuis ces 2 dernières années, il n'y en a pas un qui n'a pas une vision du développement durable déjà intégrée dans sa stratégie de marque.
Du coup, je suppose que ça, quand même, il y a forcément un pont entre votre rôle au sein de la fédération et Nelly Rodi, mais. Quel est le... Ça n'a pas de lien avec la question que je veux vous poser, excusez-moi. C'était plus pour savoir quel était le changement des profils, peut-être, que vous allez aller chercher au sein de Nelly Rodi, depuis cette nouvelle vague, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais depuis que vos clients, on va dire, prennent une orientation plus écologique au sens large.
Alors, d'une manière générale, c'est vrai que les compétences et les profils de nos collaborateurs chez Nelly Rodi ont beaucoup évolué parce que, je vous le disais, il y a 20 ans, il y avait 100% de designers. Aujourd'hui, il y a 40%, 30% de designers. Il y a le reste, ce sont des équipes qui ont une expérience business extrêmement forte, qui viennent d'écoles de commerce. Et c'est dans ce dialogue entre les gens de création et les gens de business, les gens de sociologie aussi avec les insights, que se construisent la plupart des missions et les beaux succès que nous réalisons ici. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que y a eu de grands axes majeurs de transformation des industries créatives ces dernières années. Ça a été d'un côté la RSE, on en a parlé. Donc, il y a beaucoup de... À notre taille de PME chez Nelly Rodi, on a un comité RSE, on a un délégué au développement durable qui a fait sa formation responsable développement durable pendant des semaines et des semaines comme il se doit. On a identifié une mission, on a identifié un plan d'action, des KPI, des délais. Voilà. Donc, y a même dans notre petite boîte, et même si nous ne faisons que des services, on a un plan qui est extrêmement clair aujourd'hui, et toute la boîte rentre dans l'histoire. Donc, et c'est très chouette d'ailleurs. Dans tous les entretiens qu'on mène, on me pose souvent ces questions. Quel est votre avis sur le développement durable? Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises chez Nelly Rodi, etc. Donc, la réponse est oui, il y en a plein, et c'est super.
Et le deuxième axe, c'est quand même le digital. Le digital, enfin.
C'est le digital, voilà. C'est la transformation numérique, bien sûr. Donc, et il y a des ponts entre les deux. Enfin, chez Nelly Rodi, là, on héberge aussi Inès Léonard-Duzzi qui a...
Ah oui, je l'ai vue là, je pensais que c'est... Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait là?
Bah, elle est là parce que c'est son bureau, elle a fondé Digital for the Planet, elle est aujourd'hui très investie.
Je l'ai vue de loin et je me suis dit, mais c'est elle.
Voilà, chez MTR qui est un agent d'artiste contemporain. Et donc voilà, donc elle est dans notre écosystème et on est absolument très très heureux de la savoir parmi nous. Donc tous ces liens se font et c'est toujours dans ces échanges, ces dialogues entre ces gens qui certes ont des cultures différentes mais qui sont confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes enjeux stratégiques aujourd'hui, que se font les grands succès.
Quel grand challenge vous avez aujourd'hui en tant que patron de Nelly Rodi pour vous? Vous avez quand même traversé plusieurs tempêtes.
Oui.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Que quand même, il faut le reconnaître, hein,
oui.
Avec solidité, avec ténacité, avec une ouverture d'esprit assez rare, je dois l'avouer.
Donc, c'est gentil, j'en suis pas sûr.
Ah si, parce que quand même, il faut une capacité d'adaptation assez, assez immense. Pour vous, l'avenir a forcément des opportunités et des challenges, mais je suis intéressée par savoir, selon vous, quelles sont les opportunités qui vont se présenter et éventuellement, pour ça on ne le sait pas toujours, mais éventuellement des grands challenges que vous avez en tête.
Écoutez, je fais toujours cette espèce de va-et-vient historique parce que
parce qu'on apprend beaucoup de son histoire aussi.
Parce qu'on apprend beaucoup de son histoire et que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et que j'en ai fait aussi à l'université, etc. Mais il y a 20 ans, quand j'ai vu la crise du 11 septembre 2001 arriver, la première chose que j'ai faite, ça a été de prendre un avion, d'aller en Chine. Et j'ai ouvert Nelly Rodi en Chine, au territoire chinois. On a développé des partenariats avec les grandes fédérations professionnelles locales, en déployant un certain nombre de clients auprès des grands groupes chinois du retail que nous avons accompagnés pendant de nombreuses années. Ça a été un premier mouvement qui a accéléré le développement de Nelly Rodi partout dans le monde. Aujourd'hui, maintenant que ça n'est plus possible, pour nous en tous les cas, parce que nos consultants ne peuvent pas prendre d'avion et aller travailler là-bas, donc un certain nombre de marchés se sont fermés, d'autres se sont ouverts ou se sont redéployés, si bien que Nelly Rodi continue d'avoir une croissance extrêmement forte, notamment en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Il y a un contexte économique, social qui est complètement différent et qui a accéléré depuis 2 ans un nouveau contexte culturel. Et pour moi, c'est ce driver culturel-là qui est sans doute le nouveau challenge de Nelly Rodi, comme c'est le cas pour toutes les industries créatives. En gros, une marque désirable aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'il y a 2 ans. Auparavant, la transformation des facteurs de désirabilité, ça prenait des années et des années.
C'est vrai, aujourd'hui,
et là,
ça va plus vite.
Tout s'est tellement accéléré, parce qu'il y a des nouveaux murs qui sont arrivés, pour des nouvelles frontières qui se sont mises en place, et en même temps des ponts digitaux qui se sont liés, qui se sont multipliés. Black Lives Matter est passé par là, MeToo est passé par là. Donc ça a dressé un nouveau paysage culturel de la culture contemporaine, qui fait que cette culture contemporaine que nous vivons aujourd'hui, franchement, quand on fait le point par rapport à ce qu'il y avait il y a 3 ans, il y a un nombre de débats nouveaux, donc de challenges nouveaux à adresser pour tous les chefs d'entreprise qui sont considérables.
Mais c'est ça.
Et la nouveauté aussi, c'est que auparavant, ça nous arrivait les uns après les autres. Là, tout nous arrive en même temps. Donc, il faut tout gérer. Il faut accélérer la transformation numérique, accélérer la transformation développement durable, accélérer la prise en compte des débats sociaux sur le genre, sur le corps, sur l'appropriation culturelle. Voilà, bref.
Mais ce qui aussi vous a permis certainement d'aller dans des secteurs où Nelly Rodi n'aurait jamais été, finalement, parce que le fait qu'il y ait des ponts et que les frontières se disloquent d'une certaine manière, ça vous a aussi certainement permis d'aller dans des secteurs qui n'étaient peut-être pas les vôtres, enfin les secteurs de prédilection de Nelly Rodi.
Parce que ce qui fait le lien entre tout ça, c'est la création.
C'est ça, et donc les gens viennent chercher chez vous quand même des neurones, enfin de la cellule grise, de l'échange.
Qu'aujourd'hui, tout le monde est créatif dans une boîte. Ce n'est plus le domaine exclusif des designers.
C'est ça.
Et que l'injonction à la créativité, et ce qui signifie donc à la remise en question permanente, parce qu'être créatif, ce n'est pas juste être créatif pendant 10
Bien
minutes
sûr.
Ou pendant 6 mois,
elle est systémique,
une fois qu'on a fait son job.
C'est systémique.
C'est systémique, en fait. Et donc, une fois que la création, l'injonction à la création, à l'innovation, elle est rentrée dans le système, forcément, il faut trouver des partenaires. Et j'espère que Nelly Rodi fait partie de ces partenaires, justement, aujourd'hui. Mais du coup, en ricochet pour nous, enfin, nous avons évidemment la mission d'être un phénix perpétuel, quoi.
C'est ça.
D'être celui qui réinvente les choses, qui dresse de nouvelles voies, etc. Donc, voilà, une des nouvelles frontières du moment, c'est le métaverse, c'est le Web3, etc. Donc, voilà, ça y est, Nelly Rodi est dans le métaverse. On a mis en place un espace d'exposition, nos expériences artistiques, etc. Tout ça est en perpétuelle réinvention. Et ce qui motive chez Nelly Rodi, c'est ça. Mais c'est aussi un devoir pour nous, une exigence pour nous, pour nos collaborateurs, de jouer ce jeu-là, celui de la réinvention permanente, qui est un jeu très exigeant.
Donc justement, vous êtes un patron qui se réinvente en permanence, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment, certainement votre équipe, mais surtout vous. Je pense que c'est important d'entendre les messages de patrons qui doivent se réinventer. De quoi vous nourrissez? Comment ça se passe? Enfin, je suis toujours curieuse de savoir, et puis même ça peut servir aux gens qui nous écoutent, puisque je pense que c'est la vocation de tous les patrons demain. C'est-à-dire, quel que soit finalement, sauf si on est dans une... Et encore, je suis même pas sûre, mais voilà, je crois qu'on est obligé de se remettre en question beaucoup plus vite qu'à une certaine époque. Comment vous faites concrètement? Vous êtes à l'écoute de vos équipes, c'est une certitude, mais vous-même, comment vous vous nourrissez Voilà, je suis curieuse de savoir comment ça marche pour vous.
Alors, pour moi, j'ai plusieurs réponses. Enfin, je pense qu'il y a un rythme à prendre. Donc, pour moi, la question du rythme, elle est extrêmement importante. C'est qu'une fois qu'on a pris le rythme de l'innovation, de l'écoute, etc., finalement, c'est une espèce de course de fond qui fait que on est rentré dedans, on se sent bien, on avance. Il ne faut pas trop briser le rythme.
C'est très dur.
Non plus. Et c'est très dur. C'est très dur pour soi. C'est très dur pour les collaborateurs. C'est très dur pour soi parce que faut tenir physiquement, mentalement, être absorbé par un grand nombre de sujets, un agenda où les rendez-vous s'enchaînent. De 8h30 à pas d'heure, parce que moi, ce que j'aime, et on va le voir derrière, c'est aussi sortir, regarder les gens, m'asseoir à la terrasse d'un café, regarder comment les gens s'habillent, observer, faire des dîners. Donc, je crois, un certain animal social que j'assume parfaitement, mais c'est ça qui me nourrit, en fait. C'est au-delà de la journée de travail et du rythme qui s'impose, y a aussi les moments où il faut s'obliger à aller chercher la différence, à aller chercher ce qui est singulier.
C'est ça.
Donc, je passe ma vie dans les galeries d'art, et pas forcément celle du Marais. Aller voir, quand on est parisien, aller au Salon de Montrouge, aller voir les ateliers du Nord de Paris dans le 93. C'est être à la fois administrateur de l'Institut français de la mode, mais recevoir ici Casa 93 avec des gens qui viennent franchement de la banlieue et qui ne sont pas formatés. Donc, il faut aller voir les franges, en fait. Il faut aller voir la périphérie, parce que c'est aujourd'hui à la périphérie que les choses se créent.
Qu'on sent les petits altermements, les vibrations futures. Voilà.
Quand on se détache de la périphérie, en fait, on s'embourgeoise terriblement. Et on ne voit pas la société évoluer.
Alors justement, il y a peut-être aussi autre chose qui vous permet de rester toujours innovant. c'est Nelly Rodi Moneybox. Alors, on peut le dire, ça n'est pas un fonds d'investissement parce que je ne crois pas que ça ait la forme d'un fonds d'investissement, mais c'est un outil ou un appareil d'investissement dans des structures que vous repérez éventuellement vous,
ouais,
à titre personnel, parce que je pense que vous voyez passer beaucoup de choses quand même. Mais ma question est là, c'est déjà, quand est-ce que vous avez décidé de créer ça? Et par ailleurs, comment faites-vous pour choisir? Parce que vous êtes certainement sollicité à la fois par Nelly Rodi, à la fois par la Fédération. Voilà, comment vous décidez?
Comment on décide? Alors, pourquoi on l'a fait? On l'a fait il y a une petite quinzaine d'années pour accompagner, si je me souviens bien, un premier investissement dans Michel et Augustin, la marque de food dont nous avons fait partie du premier round.
Très bon instant, parce que je crois que ça a été vendu...
Ça a été très bien revendu derrière. voilà, c'était super. Ouais. Et c'est une super marque et c'est surtout des fondateurs que j'aime beaucoup. Et de toutes les façons, notre principal critère d'investissement,
c'est les fondateurs.
C'est les fondateurs, je ne suis pas le seul à le dire.
Ouais.
Tout le monde le sait. Le deuxième critère, c'est que ça doit être lié à notre univers d'innovation et de création. Parce que c'est là où nous avons une petite valeur ajoutée. Et la troisième chose, c'est qu'on prend toujours, on agit surtout comme un gros business angel. Donc on ne met pas des investissements absolument démesurés.
Mais dès le départ quand même.
Mais souvent dès le départ, voilà. Mmh. Donc, et ça c'est plutôt sympa. Mmh. Et surtout, on est un actionnaire qui est très content quand on sort. Donc on fait pas partie de ces gens qui veulent s'accrocher absolument à leur participation. Parce que c'est pas le cœur de notre histoire, enfin Nelly Rodi Moneybox. Le cœur de l'histoire de Nelly Rodi, c'est le conseil. Donc, en revanche, c'est super parce que ça nous frotte à des personnalités innovantes, à cette Startup Nation, qui fait déjà appel au service de Nelly Rodi quand ils ont fait quelques levées de fonds et qu'ils ont un peu de sous. En général, ils viennent nous voir, ou les fonds viennent nous voir directement, évidemment. Mais pour les aider à sélectionner, à faire un peu de due diligence sur les aspects marketing, création, communication, etc. Mais Nelly Rodi Moneybox, oui, c'est une manière d'aller un peu plus loin.
Ouais.
C'est une manière d'être confronté aussi, pas simplement aux belles histoires que l'on communique, mais justement, on en parlait tout à l'heure, certaines difficultés d'entrepreneur, et c'est tout à fait normal d'avoir des emmerdes quand on est entrepreneur. Donc, si on peut les aider, en tous les cas, à sortir de quelques passes difficiles...
Et faites, justement, ces entrepreneurs. Donc, j'ai retenu aussi qu'il y avait la marque Etude.
Tout à fait.
Qui est un collectif,
aussi,
en fait.
Qui est un collectif. Et là aussi, on a investi dans Etude. Nous étions le premier actionnaire hors fondateur de Etude. Après, on a fait venir pas mal de monde, y compris des gens incroyables, comme Aurel San, comme des footballeurs qui aujourd'hui sont au capital d'Etude. C'est pas moi qui les ai fait venir, ceux-là.
J'ai compris.
Etude, c'est un collectif qui est formidable, qui au départ n'intéressait personne, parce que justement, c'était un collectif. Et qu'à l'époque, c'était 2012-2015, on disait « Non, il faut que vous soyez focalisé sur un truc, machin, là vous faites trop de choses, de l'édition, des vêtements, etc. »
Alors qu'en fait, c'était très visionnaire, finalement.
Mais c'était totalement visionnaire.
Parce qu'il y avait un roulement, en fait. C'est ça qu'il faut préciser, c'est que c'est un roulement de création.
Voilà. Et que les types, on leur disait « Mais vous venez pas d'école de mode, vous venez d'école d'art. » Justement, ils se sont connus en faisant du graffiti. Et justement, la vague, le boom
Street
du sportswear
life,
derrière qui a explosé, etc. C'était ça qui était intéressant. C'était des gens qui ne venaient pas du sérail, qui s'étaient rencontrés. C'était une histoire d'amitié incroyable entre un groupe de garçons qui se sont rencontrés à Grenoble et dans la banlieue de Grenoble en faisant du graph et qui aujourd'hui, enfin c'est la marque.
Bien sûr.
À Paris, c'est une en masculin, il y a Ami, il y a Etude, il n'y a pas beaucoup d'autres marques, il y a Jacques Mousse aussi parmi la jeune génération, mais il n'y a pas beaucoup de maisons qui ont émergé. Voilà, donc on est très très heureux là de les avoir accompagnés, ils font un boulot absolument fou. On a accompagné Horace aussi dans la marque de cosmétiques, où là aussi nous sommes sortis d'Horace dans d'excellentes conditions, qui est une très jolie maison qui se développe très bien, cosmétiques pour hommes, excellent produit, fondateur incroyable, Marc et Kim, très très belle histoire.
Quel conseil vous donneriez justement à des gens qui veulent entreprendre et dans votre secteur, même s'il est très large, à la fois le secteur de Nelly Rodi, donc tout secteur confondu. Je pose toujours cette question qui peut paraître un petit peu bateau, mais finalement, j'aime bien entendre ce qu'on dit d'instinct comme ça. Il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se présente à vous. Quel conseil vous lui donneriez ? Ou quel conseil vous donnez déjà aux entrepreneurs que vous accompagnez ?
C'est en fait, ma réponse va être aussi bateau que votre question, c'est-à-dire que ne suivez pas les règles. Mmh. Voilà, la première chose que je dis toujours, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais alors un tel, il a réussi en faisant comme ça, donc moi, je vais y arriver, je vais faire comme ça, mais je fais pas le même produit, je fais un autre truc. »
Non, c'est pas bateau comme réponse. Hein.
Je sais pas, mais je ne suivez pas les règles, en tous les cas, du marché, parce que ce qui fait...
Au sens où ne vous comparez pas à ce qui existe.
Ne vous comparez pas. Créez votre propre histoire, et soyez suffisamment fort sur votre propre histoire pour pouvoir dérouler l'autoroute qui va s'ouvrir à vous et qui sera, encore une fois, semé d'embûches. Donc, il faut être à la fois extrêmement fort, extrêmement puissant sur son idée, son concept, conscient aussi de ses limites, conscient de ce qu'il faut pour réussir, conscient que la route sera longue et qu'on a des besoins aussi qui évoluent au cours du temps. Et qu'on n'est pas toujours peut-être la bonne personne pour développer l'histoire, et qu'à un moment il faut s'en libérer, mais et qu'il faut aussi se libérer de ses actionnaires d'ailleurs quand ils sont trop petits. Bon, et donc il y a voilà, mais sortir des règles parce que le faire comme l'autre, ça marche jamais. Après, il y a des secteurs qui, quoi qu'on en dise, sont plus difficiles que d'autres. Hein. Mmh. Les valorisations dans la cosmétique ne sont pas les mêmes que dans la mode. Mmh. Ou les valorisations dans la food, dans l'hôtellerie, ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des secteurs où c'est vraiment encore plus challenging. Quoi. Mmh. Je suis président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Je peux vous assurer qu'investir dans la mode aujourd'hui, il y a plein d'opportunités parce qu'il y a des jolies maisons, mais il faut faire attention.
Bien sûr.
Il y a des modèles économiques qui ne tiennent plus.
Bien sûr. Bien de le rappeler, je pense.
Voilà.
Parce qu'à un moment, il faut être réaliste quand même.
Il faut être réaliste. Et puis surtout, il y a des maisons qui ont beaucoup de succès, mais qui peuvent donc encore une fois servir d'exemple, mais qui sont souvent des contre-exemples ou qui sont des exceptions. Et on ne peut pas se baser non plus sur des exceptions uniquement. Donc, c'est pour ça que je préfère les gens qui. Ou alors, il faut être dans l'exception soi-même et l'assumer complètement. Quoi. Mais voilà, pas faire comme les autres.
Quel souvenir merveilleux vous pourriez nous partager voilà. Est-ce qu'il y a un très très beau souvenir que vous avez dans votre carrière en tant que patron de Nelly Rodi ? Est-ce que vous avez comme ça, bon, je suppose qu'il y en a plein, mais voilà, un souvenir qui prévaut peut-être aujourd'hui Je suppose qu'il y en a plein. Ma question est très large.
Non, je vais vous en citer deux. Je ne peux malheureusement pas en citer qu'un. Le premier qui me vient en tête, c'était justement au tout début où je suis arrivé chez Nelly Rodi. Je vous le disais, crise de croissance... Mais cette crise qui était là, enfin, c'était un peu le bordel. Et il y a eu un moment où il nous manquait un peu de cash. Et pour développer Nelly Rodi, donc moi j'avais mes cahiers de tendance qui étaient là.
Qui sont toujours là
en partie d'ailleurs, qui n'ont plus la même fonction, qui ne sont plus des dictates, qui sont aujourd'hui des outils d'inspiration extraordinaires. Je souhaitais développer le marché américain parce qu'aux États-Unis on vendait quasiment rien. Donc j'avais pris un premier avion pour la Chine et le deuxième avion que je voulais prendre c'était pour les États-Unis. Et ma mère me dit oui mais là on n'a vraiment pas de cash, etc. Et avec son panache habituel, elle me dit ah mais j'ai des miles. Il y a une promotion Concorde, on y va en Concorde. Et donc, je suis allé débaucher l'agent de mon principal concurrent de l'époque en Concorde, alors qu'on n'avait pas un rond sur les comptes.
Vous avez réussi à le débaucher.
Et je l'ai débauché, bien sûr. Et je suis rentré avec mon contrat en Concorde. Et surtout, je suis allé sous le Concorde parce qu'il y avait un problème avec ma valise. Et je me souviens de moi sur le tarmac de JFK à 28 ans sous le Concorde. Et voilà, en me disant, mais Pierre-François, quelle vie t'attend. Voilà.
Magnifique.
Ça, c'était un bon souvenir.
Ouais.
Un autre bon souvenir, c'est un souvenir plus récent. Mais c'est souvent lié à des rencontres avec des gens, parce que Nelly Rodi est un lieu aussi qui vit beaucoup. Cet hôtel Cromoudoupour dans lequel nous sommes, qui est un hôtel particulier, classé monument historique.
Qui est une merveille,
ouais. Qui a été, je crois, assez bien rénové. Ouais. Est un lieu de rencontres, d'événements, de concerts, de masterclass permanents. Et donc, je pourrais citer, mais des entrepreneurs. Il y a eu des dizaines de gens qui sont venus ici. Mais s'il y en a un qui... Il y en a plein qui m'ont marqué, mais il y en a un qui me touche au cœur beaucoup. C'est Aurel San, qui est un garçon qui dit tellement de choses de notre société française, qui le dit tellement bien avec son cœur, avec ses erreurs, avec son histoire, avec tout ce que l'on veut, que moi, voilà, ces mots, ma rencontre avec lui, cette masterclass qu'il a donnée ici de manière extrêmement généreuse, avec des gens qui ne s'attendaient pas du tout à le voir parce qu'on l'avait fait en pop-up très surprise.
Incroyable.
C'est un type qui donne très peu d'interviews. Voilà, passer une heure avec lui, ici chez Nelly Rodi, ça a été
un grand moment.
Voilà, un moment dont je me souviendrai longtemps.
Ouais. Pierre-François, je finis toujours mes interviews par les mêmes questions, à savoir un coup de cœur. Bon, bah, peut-être que c'était avec Aurel San, je ne sais pas. Un coup de cœur, un coup de gueule. Et éventuellement, parfois ils se recoupent. J'ai constaté là depuis un certain temps que ça se recoupait, hein, le coup de gueule, et la vision de la France. Mais voilà, c'est une question volontairement relativement large, la vision de la France. Mais voilà, je suis toujours intéressée par savoir qu'est-ce qui ressort en premier quand les gens me répondent à cette question.
Ouais, bah on va faire une trilogie assez cohérente. Oui, bah, prenons Aurel San comme coup de cœur. Parce que c'est peut-être le nouveau Johnny Hallyday de notre génération.
C'est possible, c'est possible.
Et que son dernier album, il faut danser avec, et puis il faut surtout beaucoup l'écouter.
L'écouter, ouais.
Mon coup de gueule, cette campagne électorale que je déteste. J'ai adoré les campagnes électorales, je suis un animal politique qui ne fait pas de politique, mais qui adore ça. Je n'aime pas cette campagne parce qu'elle ne parle que de ce qui nous divise et elle ne parle pas de ce qui nous rassemble. Elle me rend très triste, en fait.
Puis surtout, on a le sentiment qu'elle ne démarre pas vraiment.
Elle démarre avec une espèce de combat où on utilise des armes franchement pas très belles, de débauchage des uns et des autres, comme si... c'était un sujet de personnes, surtout de personnalités politiques, dont je pense que les Français n'ont absolument que foutre. C'est pas un débat d'idées, et surtout, quand il y a des idées qui sortent, c'est des idées extrêmement rances, que je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas ce combat, je n'aime pas le manque de débat qu'il peut y avoir. J'adore le débat, en revanche.
Et votre vision de la France, du coup ?
Eh ben, ma vision de la France, elle est que...
Est-ce qu'elle reste au cœur des tendances ?
La France ? Pas du tout. Non. La France, non, et ça, je l'ai beaucoup vu hein, dans mes voyages. Vous avez compris, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé pendant très longtemps. Il y a une dégradation de l'image de la France de manière assez continue. Qui n'est plus l'épicentre du monde, au moins de la création qu'elle a pu être. Elle l'est toujours, mais de manière un peu factice. Elle l'est toujours parce que la Fashion Week de Paris, par exemple, est toujours l'épicentre mondial où les plus belles marques sont présentées. Donc ça l'est, mais il y a plein d'autres capitales qui se sont créées de manière plus locale, etc. Donc c'est une nouvelle géographie de la création qui s'est mise en place. J'espère que Paris tiendra au maximum son rang, mais malheureusement, elle rayonne, je trouve, un petit peu moins qu'à une certaine époque. En tous les cas, c'est moins évident. Mais malgré tout, ma conviction, ma vision de la France, c'est que nous avons un rapport à la création qui est totalement unique et qui fait notre différence dans le concert mondial des nations. Et qu'il faut chérir ça. Il faut chérir cette singularité, ce sens esthétique qui fait que tous les Français ont un rapport à l'esthétique, à la beauté, qui est extrêmement particulier, qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut comprendre ou connaître partout ailleurs dans le monde. Donc la France est une nation de créatifs, de créateurs. On a inventé des formats de distribution différents. On a des artistes absolument incroyables, etc. Donc, on a un pays d'innovation en permanence, très ancré, évidemment, dans une histoire, dans une culture, dans un pays, dans une géographie, dans des valeurs. Mais c'est aussi une nation qui se projette beaucoup de manière totalement innovante avec une dimension esthétique très, très forte. Et donc, ça, il faut le chérir absolument. Et c'est ce qui fait notre différence, notre singularité dans le concert mondial des nations.
Pierre-François, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose éventuellement? Parce que moi, j'ai quelque chose à ajouter.
Moi, j'ai quelque chose à ajouter.
Ah oui, dites-moi.
Estelle, vous m'avez dit des mots gentils au début. Oh. Je veux terminer par des mots gentils à votre égard. Parce que vous êtes une femme de tempérament. Vous êtes une femme avec un charisme incroyable.
Je vais rougir.
Allez-y, rougissez. Moi, je ne rougis pas. Bravo pour votre podcast. Parce que à chaque fois, je trouve que ce sont des rencontres extrêmement touchantes, très personnelles et qui donnent un visage très humain à cette communauté
Merci
que vous avez
beaucoup.
Construite autour de vous.
Merci beaucoup. Écoutez, je suis très touchée et j'avoue que j'avais quand même un petit message en plus, donc en plus de tous les compliments que je vous ai dit, j'ai une pensée pour votre maman, à vrai dire.
Vous avez raison.
Et vous parliez de panache et tout à l'heure vous avez utilisé ce terme et effectivement j'ai rencontré votre maman il y a un certain temps maintenant et c'est une rencontre vraiment marquante avec une femme exceptionnelle. Voilà.
Vous savez qu'elle vous aime beaucoup.
À bientôt, Pierre-François. Merci beaucoup.
Estelle.
Voilà, les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.